Le collège de Kuta.
Des interviews,
des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque.
Bienvenue à tous. Vous écoutez Ondes de choc sur Radio Escapade.
Ici Blue et Lucien, vos animateurs pour cette toute première émission en direct du CDI du collège de Goutache à Quissac. Aujourd'hui, on vous a préparé plein de sujets captivants. Restez avec nous.
Logique, on est là pour ça.
Tais-toi, toi.
Ah.
On commence par Halloween avec Augustine et Aurore. Elles vont nous raconter l'histoire de cette fête mystérieuse et comment les enfants et adultes la célèbrent dans différents pays. Vous verrez, Halloween, c'est bien plus qu'un simple déguisement.
Ensuite, Esteban, Louis et Charlie, qui forment la nouvelle équipe de la multinationale TF2, vont nous emmener dans le monde des marques. Comment sont-elles nées ? Pourquoi certaines sont-elles devenues aussi célèbres ?
Puis Victoria, Suzy et Enora partageront leur expérience de la rentrée en 6e. Comment ont-elles vécu ce grand changement ? Elles nous proposent des témoignages d'élèves.
Léon, Arnaud et Chauve vont nous faire un petit saut dans le futur avec leurs prévisions pour les élections présidentielles de 2027. Qui sera élu ?
Alissa et moi, nous vous expliquerons comment les mathématiques peuvent aider à comprendre les illusions d'optique. Grâce à cette exposition dans une médiathèque du Gard, elle nous montre comment notre cerveau peut parfois nous jouer des tours très cool.
Enfin, Maximilien et moi, nous vous parlerons des voitures de course du WRC et de la chaîne Rallyfix. Ces courses sont incroyables. Et voilà, notre émission d'aujourd'hui. Restez à l'écoute.
On commence avec Augustine et Aurore, l'origine de Halloween et comment on le fête dans le monde.
Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange?
Come with us and you will see. This is our town of Halloween.
This is Halloween, this is Halloween.
Pumpkins scream in the dead of night.
This is Halloween, everybody make a scene.
Trick or treat,
tell the neighbors gonna die of fright.
It's our town, everybody's free.
In this town of Halloween,
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fête la plus effrayante de l'année, Halloween.
Halloween est né au 11e siècle en Irlande. Le mot Halloween vient des mots anglais Hall, Hallow, Heaven, ce qui veut dire la veille de tous les saints. À l'époque, cette fête s'appelait Samhain. C'était une fête religieuse qui était célébrée pour le nouvel an. Pendant sa main, on allumait des grands feux et on taillait des navets avec des têtes effrayantes pour guider les esprits perdus vers l'église du village.
Maintenant, nous allons vous parler des différentes manières de fêter Halloween dans quelques pays. En Irlande, pays fondateur de cette fête maléfique, a fait de cette célébration religieuse une fête joyeuse. Elle défile dans les rues, les enfants vont chercher des bonbons en toquant chez les gens le soir et se déguisent en monstres comme des sorcières, des zombies, des squelettes ou encore des fantômes. Ils taillent aussi une citrouille avec un visage effrayant et placent une bougie dedans pour créer une lanterne. Passons à Hawaï. À Hawaï, notamment sur l'île d'Oahu, la ville de Lé accueille ainsi l'exploration d'un lagon hanté où en explorant dans le noir, on peut trouver une maison hantée. Contrairement aux autres pays qui utilisent une citrouille, Hawaï, lui, utilise un ananas pour faire sa lanterne.
Et voici la Chine. La Chine, elle, au lieu de célébrer Halloween, célèbre la fête des fantômes. Elle se tient chaque 15e jour du 7e mois lunaire, connu pour le mois des fantômes. La tradition veut que pendant cette période, les esprits tourmentés de l'enfer chinois sont relâchés sur Terre. Pour les apaiser, les habitants leur offrent des repas réconfortants, brûlent de l'encens et organisent des célébrations. Et toi, Augustine, qu'est-ce que tu as fait pour Halloween ?
Moi ? Moi, je suis allée dans ma maison de vacances. Ma maison de vacances est située dans un petit village. Et avec mes cousines, on a toqué à chaque porte de ce petit village pour aller chercher des bonbons. Voilà.
Maintenant, c'est l'heure de nous quitter. Et on espère que vous avez passé un horrible Halloween.
Tinderella,
There's no fun without a good scare.
That's our job.
But we're not mean in our town of Halloween.
In this town.
Don't we love it now?
Everyone's waiting for the next surprise.
Skeleton Jack might catch you in the back and
scream like a banshee, make you jump out of your skin.
This is Halloween, everybody scream.
Won't you please make way for a very special guy?
Wildman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king.
Now this is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween.
We call home. Everyone hail to the pumpkin song.
Merci. Je vais maintenant laisser le micro à l'équipe de TF2.
Et bonjour à tous. Je vous souhaite un très bon retour sur TF2. Cette année, un nouvel employé sous-payé nous a rejoint. Je vous demande d'accueillir Esteban. Dans cette émission, il va accompagner Charlie, notre reporter, pour vous concocter une super émission de rentrée, l'origine des marques. Ensuite, la deuxième partie de ce sujet sera pourquoi les marques sont si présentes aujourd'hui et pourquoi certaines sont-elles si chères. Je vous laisse donc avec notre première chronique de cette année et bonne écoute sur TF2.
Bonjour à tous. Les premières marques connues remontent à la Mésopotamie et à l'Égypte ancienne. Les potiers, artisans et commerçants gravaient des symboles personnels sur leurs produits pour garantir qu'ils étaient fabriqués ou entretenus par eux. En Égypte, on trouve des sceaux et hiéroglyphes servant à identifier les ateliers radio ou les artisans du pharaon. Les Romains, eux, ont perfectionné cette pratique. Les poteries portaient souvent une estampille, indiquant le nom du fabricant ou du marchand. Les briques, tuiles ou armes portaient aussi des marques de légion ou de manufacture. Certaines de ces marques servaient même de garantie de qualité.
Le Moyen-Âge. À partir du XIIe siècle, les corporations et guildes européennes ont réglementé l'usage des marques. Les artisans, orfèvres, forgerons, tisserands, etc. devaient apposer leur poisson ou marque d'atelier sur leurs produits. Ces signes permettaient de tracer la provenance et de protéger contre la contrefaçon. Ces blasons et armoiries servaient aussi de marques symboliques d'appartenance et de prestige. Avec la révolution industrielle, la production s'est intensifiée et les produits ont circulé sur de grandes distances. Les fabricants ont commencé à créer des logos et des noms pour distinguer leurs produits. Les premières lois sur les marques de fabrique apparaissent. En France, la loi de 1857 instaure la protection légale des marques commerciales.
Et merci beaucoup Charlie et Esteban de nous avoir éclairé sur ce sujet qui nous était encore flou. Grâce à vous, nous allons pouvoir enchaîner de plus belle pour vous expliquer les marques comme Coca-Cola ou Nike qui ont pris autant d'ampleur et ont réussi à créer des sociétés qui possèdent aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. En commençant tout de suite avec Coca-Cola. En 1886, à Atlanta, le pharmacien John Pemberton invente un sirop censé soigner les maux de tête. Par hasard mélangé à de l'eau gazeuse, il donne naissance à une boisson au goût unique, Coca-Cola. Son comptable crée le nom et le logo. Quelques années plus tard, c'est Asa Candler qui rachète la formule et transforme cette boisson locale, en une marque mondiale grâce à la publicité. Peu à peu, Coca-Cola devient le symbole du bonheur et du rêve américain, reconnu partout dans le monde.
Passons maintenant à Nike. En 1964, Phil Knight et son entraîneur Bill Bowerman commencent à vendre des chaussures de sport, connues sous le nom de Blue Ribbon Sport. En 1971, ils créent leur propre marque, Nike, du nom de la déesse de la victoire, avec le fameux logo rouge. Grâce à ses innovations et son slogan « Just do it », ils créent des liens avec des partenaires, les plus grands athlètes du monde. Nike devient alors le symbole de la performance, du courage et du style sportif dans le monde entier.
Et merci Charlie. Maintenant, pour terminer ce sujet, nous allons parler des marques qui ont pris beaucoup d'ampleur et qui font payer ces produits très chers. Je te laisse la parole, Esteban.
Il y a bien longtemps, des maisons comme Louis Vuitton et Dior sont nées du rêve d'artisans passionnés. Ils ne fabriquaient pas seulement des sacs ou des robes, mais de véritables œuvres d'art, cousues à la main et avec soin et patience. Avec le temps, leurs créations ont séduit les rois, les stars et les élégantes du monde entier. Ces noms sont autour, devenus des symboles de raffinement et de réussite. Leur rareté, leur histoire et leur perfection ont fait monter leur valeur. Plus qu'un objet, c'est un rêve qu'on achète. Aujourd'hui encore, posséder un Dior ou un Louis Vuitton, c'est porter un morceau d'histoire. C'est aussi dans certains milieux une marque de reconnaissance.
Et c'est ainsi que se finit notre sujet sur les marques. Je vous remercie, vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés. Et je remercie aussi Esteban qui nous a rejoint malgré les conditions de travail. Je vous dis à une prochaine fois sur TF2.
Merci. Maintenant, on a le droit à un sujet sur la rentrée des 6e. Quels sont les grands changements par rapport au CM2? Est-ce si stressant d'arriver au collège?
I'm not that easy to tame. You should see me under these lights. All my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in, I might stay through the night. Bet you get it now. Broke that, didn't I? Chaka, catch my no gun, no gun. Think you're running back. Guess we gonna be.
You know I walk, yeah, I talk, yeah.
생각도 하나, 둘, 셋, 뛰어.
Tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Nous, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet qui fait beaucoup peur au 6e.
La rentrée. Nous allons interroger deux élèves de 6e pour répondre à toutes nos questions.
C'est parti!
On va interroger les deux élèves de 6e. Bon alors, comment te sentis-tu le jour de la rentrée?
Très bien, quand même un peu stressée parce que j'arrivais dans une classe où il y avait plein de personnes que je ne connaissais pas.
Un petit peu stressée parce qu'il fallait passer devant tout le monde, devant un micro. Et surtout, je connaissais à peu près la moitié de la classe.
Et c'était quoi vos pires phobies pour la rentrée?
Être harcelée.
Être harcelée aussi.
Et surtout?
Que mon téléphone sonne.
Est-ce que vous étiez genre content de changer de prof entre les cours? Et sinon, pourquoi?
Moi, oui. Parce qu'à l'école primaire, comme on ne changeait vraiment pas de prof, ça commençait à devenir ennuyant. Il n'y avait pas les mêmes humours, pas les mêmes voix, voilà.
Je comprends. Et toi?
C'est pareil, mais je trouve qu'au lieu que ce soit les élèves qui se déplacent, ça peut être les profs, ce serait un petit peu mieux.
Est-ce que vous aviez peur du harcèlement? Et sinon, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons?
Moi, j'ai peur du harcèlement. Parce que se faire vraiment harceler... Ça me fait peur, j'ai peur de le dire à mes parents parce que je suis le fils d'une des profs de sport du collège. Et qu'en plus de ça, j'ai bien envie d'avoir un téléphone, mais j'ai peur aussi du cyberharcèlement des autres.
Ça c'est très bon choix parce qu'il faut absolument limiter les écrans, c'est hyper important. Pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important d'oublier les réseaux parce que vraiment c'est source de problèmes. Et toi sinon?
Moi j'ai vraiment envie de ne pas me faire harceler parce que j'ai déjà eu... cette expérience dans mes anciennes écoles et c'était vraiment pas très sympa.
Est-ce que t'avais peur d'être séparée de tes potes et pour quelles raisons?
Non, car je savais que j'allais en avoir de nouveau et que je ne serais jamais seule et que j'aurais mes amis toujours à mes côtés.
Moi c'est un petit peu pareil mais j'avais peur que mon meilleur ami ne soit pas dans la même classe que moi.
Quelle était ton émotion la veille de la rentrée?
J'étais vraiment très, très stressée et que je devais être tout parfait. Donc du coup, j'ai pris tous mes cahiers et ça faisait un petit peu lourd.
Moi, je voulais bien m'habiller pour pas être stupide. Et j'étais aussi très 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 stressée par une entrée au collège.
Quel était le changement le plus compliqué par rapport à quand tu étais en CM2?
Le travail, surtout. Il y avait beaucoup plus de travail. J'ai eu un ordinateur pour vérifier mes devoirs sur l'ENT. Et c'est tout.
Moi, c'est un petit peu pareil que Noé.
Et pour finir, quel est ton cours préféré?
Les cours de physique-chimie, parce que j'ai beaucoup de livres de physique chez moi. Je regarde beaucoup de documentaires à la télé. J'aime bien la culture. J'aime bien savoir plus de choses sur la planète et les sciences.
Moi, c'est pareil parce que j'adore la physique-chimie, parce que la professeure, déjà, elle est super bien, elle explique super bien. Et vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et on apprend plein de choses. Et en plus, on apprend en toute sécurité.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, les garçons.
Un grand merci à Quentin et Noé qui ont accepté de répondre à nos questions. On espère que ce sujet vous aura plu.
On se retrouve pour un nouveau sujet.
Sur ce, à bientôt pour de nouvelles chroniques.
Blackpink in your area.
Et maintenant, Léon et Arnaud et Sean vont nous faire les prévisions des présidentielles de 2027.
Chers auditeurs, au premier semestre 2027 se tiendront les élections présidentielles de France. Certains partis ressortent déjà en popularité, tels que le RN, Rassemblement National. Et bien que l'on ne sache pas vraiment quels candidats se présenteront, nous pouvons déjà effectuer quelques diagnostics à partir de l'actualité et des anciennes élections.
Mais d'abord, quels sont les enjeux de ces élections? Qu'est-ce que la droite? Qu'est-ce que la gauche? C'est ce que nous allons vous expliquer dans un premier temps.
Tout d'abord, il faut savoir qu'en politique, il existe deux grands côtés idéologiques. Ils portent différents noms selon les endroits du monde. En France, on les appelle la droite et la gauche. L'intérieur de ces côtés idéologiques, on distingue six sous-ensembles. L'extrême droite, la droite, le centre-droite, le centre-gauche, la gauche et l'extrême-gauche.
Enfin, il y a les partis, qui sont des groupes de personnes qui ont tous les mêmes idéaux. Chaque parti a des députés qui peuvent se présenter aux différentes élections, avec une liste.
Mais revenons aux deux grands côtés idéologiques. Quelle est la différence entre la droite et la gauche?
C'est très simple, les deux côtés sont radicalement différents. L'un, la gauche, défend par exemple des valeurs républicaines dans un sens international et considère chaque être humain égal en droit et en devoir. Alors que l'extrême droite pense que, en France, les Français d'origine devraient avoir plus de droits que les immigrés, même s'ils obtiennent la nationalité française.
En somme, pour la droite, tous les humains sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Le RN, que nous avons évoqué en début de chronique, qui est un parti d'extrême droite, évoque même dans ses discours l'envahissement de la France, notamment par les migrants venus du Sud.
Actuellement, le Rassemblement National est sans doute le parti le plus populaire, puisqu'il a déjà remporté plusieurs élections. De plus, les opposants à gauche ne sont globalement pas très organisés, la gauche étant divisée notamment à cause de la France insoumise, un parti d'extrême gauche. Lors des dernières élections législatives, la gauche est sortie victorieuse grâce à son union, appelé le NFP, Nouveau Front Populaire, ce qui risque de ne pas être possible pour 2027.
Parmi les candidats de la gauche, nous pouvons vous présenter Raphaël Glucksmann, pour les partis socialistes, le PS. Et aujourd'hui, en partie en difficulté, mais sa pensée met en avant le respect de chaque être humain. Glucksmann a pour l'instant trois axes clés dans son programme, plus d'écologie, plus de justice et au travail, plus de services publics.
Emmanuel Macron, actuel président de centre-droit de France, ayant déjà fait deux mandats, ne pourra plus se représenter. Pour conclure, nous ne savons pas qui remportera les élections. Mais nous vous invitons à réfléchir en famille, pour paraphraser une radio rivale. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous. Merci de nous avoir écoutés.
Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu.
s'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je marchais sans fin. Je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent.
Tour de Blue et Alissa qui vont nous parler des illusions d'optique.
Salut tout le monde, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais moi c'est Alissa et c'est ma deuxième année de radio. Et je passe tout de suite la parole à Blue, avec qui je fais ce sujet qui est en sixième.
Bonjour, comme vous l'a dit Alissa, je m'appelle Blue, je suis en sixième, je fais mon premier sujet et je suis trop contente. Notre sujet s'intitule « Les illusions d'optique par les mathématiques » de l'artiste Xo.
Cette exposition aura lieu du 1er octobre au 4 novembre 2025 à la médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze.
Le vrai nom de l'artiste Xo est Jean-Paul Cazot, qui est un artiste toulousien. Son art mélange l'op-art, les calculs mathématiques, les formes géométriques, ainsi que sa passion pour le dessin et l'imprimerie en noir et blanc.
On peut aussi réaliser son propre tableau lors d'un atelier proposé par l'artiste, le samedi 11 octobre au café culturel Lagrange.
Mais c'est quoi une illusion d'optique ?
Les illusions d'optique sont faites pour piéger notre cerveau. Quand notre œil perçoit une image, elle se forme sur la rétine et est analysée. Mais Blue, est-ce que tu sais ce que c'est une rétine ?
Mais oui, je sais ce que c'est ! Une rétine est une membrane interne de l'œil destinée à recevoir les impressions lumineuses et à les transmettre aux nerfs optiques.
Donc, les nerfs optiques transmettent alors cette analyse à votre cerveau sous forme de messages codés qui rejoignent le cortex visuel primaire et secondaire.
Il existe plusieurs illusions d'optique, dont un dé qui disparaît, des cœurs qui clignotent ou encore le fantôme de Charlie Chaplin. Mais on va plus s'intéresser au fantôme de Charlie Chaplin. Mais Alissa, peux-tu nous dire comment ça fonctionne ?
Pour que cette expérience marche, il te faut un portrait de Charlie Chaplin en noir et blanc et une feuille blanche juste à côté. Fixe pendant 30 secondes Charlie Chaplin en noir et blanc, puis regarde longuement sur la feuille blanche.
Tu verras Charlie Chaplin sur la feuille blanche. Bizarre, n'est-ce pas ?
Et c'est sur cette phrase que se finit notre chronique.
Nous avons hâte d'en refaire une. Et enfin, Max et Lucien vont nous parler du WRC.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Ondes de Choc, nous allons vous expliquer comment une voiture de rallye fonctionne. En plus de vous faire écouter une interview de RallyFix, un youtubeur aux 11 000 abonnés, pour nous parler de sa passion, et pourquoi il en est là aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m'appelle Guillaume, j'habite à Saint-Théodorite, dans le Gard, et je suis AESH au collège de Quissac.
Depuis quand vous filmez les voitures de course ?
J'ai commencé à filmer en 2010 et j'ai créé ma chaîne YouTube en 2017.
Est-ce que vous regardez vos vidéos une fois qu'elles sont publiées ?
Je les regarde toujours une fois que je les publie pour vérifier le montage et quelquefois je les regarde des années après pour me remémorer les instants.
Comment vous avez commencé à filmer les voitures ?
Alors, je suis un grand passionné de sport automobile, donc j'ai fait des rallyes au volant. J'ai commencé en 2007 et jusqu'en 2018. Et du coup, vu que je suis un grand passionné, j'aime aussi aller les voir et les filmer. J'ai commencé à filmer pour quelqu'un qui faisait des DVD. Vu que YouTube, ça commençait à être vachement connu, je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne YouTube à mon nom et filmer pour moi.
Ta marque préférée ?
Alors, je suis plutôt pour les marques françaises. Alors, je vais dire Peugeot et pour la voiture, la 306 Maxi. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous.
Eh bien, merci beaucoup pour cette interview de qualité et pour le montage exceptionnel. Maintenant, on va vous expliquer comment fonctionne une voiture de WRC et comment en avoir une fonctionnelle et légale pour la compétition. Tout d'abord, une voiture de WRC doit impérativement être une voiture de série, en gros une voiture que monsieur tout le monde peut acheter, et pas une voiture faite main, contrairement à la course de côte. Il y a de nombreux changements à faire pour rendre une Hyundai 120, par exemple, en un monstre de rallye. La première chose à faire est de rajouter un arceau de sécurité. Ces modifications permettent de survivre à n'importe quel accident, car un arceau de sécurité protège le pilote et le copilote de littéralement se faire broyer par la carrosserie. Et puis, si vous vous intéressez à un minimum au rallye, vous savez à quoi ça ressemble un crash.
Deuxièmement, un moteur turbochargeur de 1,6 litre. Ce moteur permet de grosses accélérations et en plus n'est pas très lourd, vous permettant d'atteindre les 380 chevaux. Pour comparaison, une vieille Twingo, en effet, on peut au moins de 80 chevaux et vous savez qu'une Twingo est très rapide.
Troisièmement, un rotor électrique permettant d'accélérer encore plus vite, de 0 à 100 km/h en moins de 3,26 secondes, qui en plus booste à 514 chevaux la voiture.
Quatrièmement, des suspensions à toute épreuve, car vous savez que ces voitures roulent sur asphalte et sur terre, deux surfaces très différentes.
Cinquièmement, un système anti-lag. Pour faire simple et efficace, c'est un turbo est une sorte de gros escargot qui aspire de l'air de l'extérieur de la voiture et l'injecte dans les cylindres pour plus de puissance et une superbe accélération gigantesque en sortie de virage.
Sixièmement, des pneus extrêmement efficaces, tout terrain, car ceux qui ne sont pas adhérés du tout pour les passages sur route.
Septièmement, une transmission intégrale avec moteur avant sur quatre roues motrices. Et enfin, un allègement complet de la voiture et un copilote qui ne se perd pas dans ses notes. Sinon, c'est un peu mort. Et voilà, vous savez tout ce qu'il vous faut pour votre voiture de rallye. Maintenant, vous avez besoin de seulement 20 à 30 000 euros pour les modifications, pour vous acheter tout ça, sans compter le prix de la voiture.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est déjà la fin.
Toute l'équipe d'Onde de Choc vous remercie pour votre écoute. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous ici au CDI du Collège de Quissac.
À très bientôt sur les ondes.
Le Collège de Kuta. Des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez Onde de Choc.